Audiolib présente Ce que savait la nuit de Arnaldur Indridason. Traduit de l'islandais par Erik Bourri. Lu par Martin Spinayer. La nuit sait tant de choses. Mon esprit s'alourdit. Souvent j'ai vu les sables noirs consumer les vertes prairies. Dans le glacier grondent des failles plus profondes que la mort. Johan Sigurjonsson. Chapitre 1. Le temps était radieux. Assise depuis un moment avec le reste du groupe pour se reposer après leur longue marche, elle avait sorti un casse-croûte de son sac à dos et admirait la vue sur le glacier. Son regard s'arrêta tout à coup sur le visage qui affleurait à la surface. Comprenant avec un temps de retard la nature exacte de ce qu'elle avait sous les yeux, elle se leva d'un bond avec un hurlement qui troubla la quiétude des lieux. Assis en petit groupe sur la glace, les touristes allemands sursautèrent. Ils ne voyaient pas ce qui avait pu bouleverser à ce point leur guide islandaise, cette femme d'âge mûr qui gardait son calme en toutes circonstances. La veille, ils avaient gravi l'Eyjafjallajökull. Le volcan situé sous ce glacier était devenu célèbre quelques années plus tôt lorsqu'il était entré en éruption. Le nuage de cendres qui s'en était dégagé avait bloqué le trafic aérien en Europe. L'épaisse couche de scorie qui avait recouvert les environs avait aujourd'hui disparu, dispersée par le vent ou absorbée par le sol avec la pluie. Les flancs du glacier avaient retrouvé leur couleur naturelle. Le paysage s'était remis de la catastrophe. Le voyage devait durer 10 jours au cours desquels le groupe était censé gravir 4 glaciers. Ils avaient quitté Reykjavik environ une semaine plus tôt à bord de véhicules adaptés à la conduite sur glace et étaient hébergés dans de confortables hôtels dans la province du Sud-Irlande. Ces touristes, un groupe d'amis originaires de la ville de Wolfsburg, connue pour son usine de voitures, étaient des gens aisés qui ne se refusaient rien. On leur portait de délicieux repas pendant leurs excursions, et le soir, quand ils redescendaient, ils faisaient de grandes fêtes. Des randonnées de longueur raisonnable étaient organisées sur les glaciers, ponctuées par des pauses pour se restaurer. Le groupe avait été particulièrement chanceux avec la météo. Le soleil brillait dans un ciel limpide chaque jour de ce mois de septembre. Les touristes passaient leur temps à interroger leur guide sur le global warming et les conséquences de l'effet de serre en Islande. Leur guide parlait couramment l'allemand, ayant étudié la littérature à Heidelberg pendant plusieurs années, il y avait maintenant presque 20 ans. Les conversations se déroulaient exclusivement dans cette langue, la seule exception étant cette expression anglaise « global warming » qui revenait régulièrement. Elle leur avait expliqué que le climat avait beaucoup changé au cours des dernières années. Les étés étaient plus chauds, l'ensoleillement avait augmenté, ce dont les gens ne se plaignaient pas. L'été islandais avait toujours été imprévisible. Désormais, on pouvait presque compter sur du beau temps plusieurs jours de suite, voire plusieurs semaines. Les hivers étaient également devenus plus doux, même si la longue nuit boréale persistait. Le changement le plus visible concernait les glaciers, qui reculaient à toute vitesse. Par exemple, celui de Snæfellsjökull n'était plus que l'ombre de lui-même. La dernière excursion au programme prévoyait l'ascension du Langjökull, qui avait perdu plusieurs mètres d'épaisseur en très peu de temps. 3 mètres entre 1997 et 1998, avait-elle précisé. Quant à sa surface totale, cette dernière avait diminué de 3,5% au cours des dernières années. Pendant sa formation de guide, on lui avait conseillé de retenir des données chiffrées. Elle avait également fait remarquer aux touristes que les glaciers constituaient 11% de la surface de l'Islande. L'eau qu'ils contenaient équivalait à 25 années de précipitations. Après une nuit à Húsafell, ils étaient partis vers 11h. C'était un groupe très agréable, en bonne condition physique et doté du meilleur équipement, le nec plus ultra des chaussures de marche et des vêtements de protection. Rien n'était venu troubler le voyage. Personne n'était tombé malade. Personne ne s'était plaint ni n'avait causé de désagréments. Tous avaient à cœur de profiter de ces moments. Ils avaient longé le glacier un certain temps avant d'entreprendre l'ascension à pied. La glace craquait à chaque pas. Des rigoles plus ou moins grandes coulaient un peu partout à la surface. La guide ouvrait la marche. Elle sentait le souffle frais de l'étendue gelée lui caresser le visage.